Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Leur nom est célèbre dans le monde entier. Il évoque les pierres les plus précieuses, les diamants les plus étincelants. Et si la maison Cartier rayonne encore aujourd'hui, c'est grâce au talent combiné de trois frères nés à la fin du 19e siècle. Je vous raconte maintenant trois frères aux affaires, Louis, Jacques et Pierre Cartier. Dans leur appartement du boulevard des Italiens, au-dessus de la bijouterie de leur père, Louis, Pierre et Jacques Cartier rêvent du jour où ils reprendront l'entreprise familiale. Sur une table, l'aîné de la fratrie a déplié une carte du monde. Avec un crayon, il sépare trois immenses zones sur le planisphère. Pour lui, Paris, l'Europe et ses cours étincelantes. Pour Pierre, le continent américain. Et pour Jacques, l'Angleterre et son empire colonial. Nous sommes dans les années 1880, dans le quartier très animé des grands boulevards parisiens. Louis a 18 ans, Pierre 15 et le petit dernier Jacques à peine 9. Ils sont suivis par une petite sœur, Suzanne, qui en tant que fille n'est, elle, pas destinée aux affaires. Les trois garçons, en revanche, savent bien ce que l'on attend d'eux. Et tant pis pour celui qui, comme Jacques, aspire plutôt à une carrière ecclésiastique. En cette fin du 19e siècle, Cartier n'est pas encore un nom illustre. Mais l'entreprise familiale est déjà bien connue d'une clientèle triée sur le volet. C'est Louis-François, le grand-père, entré très jeune en apprentissage chez un joaillier, qui a su s'extirper de sa condition plus que modeste par son travail acharné. Les Cartier sont à l'origine une famille très pauvre du quartier du Marais, dans le vieux centre de Paris. Après Louis-François, Alfred a continué le développement de l'affaire de son père. Il a fait de la boutique du 9 boulevard des Italiens l'adresse privilégiée des grands aristocrates comme des princes, le prince de Saxe-Cobourg par exemple. Mais pour leurs plus grosses commandes, pour les bijoux les plus importants et les plus extraordinaires, les têtes couronnées continuent de faire appel à d'autres fournisseurs. Les jeunes Cartier sont conscients de leur atout. Ils sont trois, là où leur père et grand-père géraient seuls l'entreprise. À trois, ils peuvent être partout à la fois et dépasser les frontières de Paris, un objectif fondamental à l'heure où les grandes fortunes américaines supplantent progressivement la vieille aristocratie européenne dans les carnets de commandes. Louis, l'aîné, rejoint son père en 1898, il a 23 ans. La même année, il épouse André Caroline Wirth, petite-fille du célèbre et grand couturier. Pour les Cartier, associer leur nom à celui de Wirth est un vrai succès mondain. C'est aussi la promesse de bénéficier de la notoriété d'une maison connue dans le monde entier et dont la clientèle fait rêver n'importe quel artisan de luxe. L'année suivante, grâce à la dot de sa femme, Louis organise le déménagement de la boutique Cartier au 13 de la très chic rue de la Paix. Une adresse stratégique pour attirer l'attention des clients les plus fortunés. La nouvelle boutique est moderne. Elle est même l'une des premières dans Paris à disposer de l'électricité et du téléphone. En 1900, Pierre entre à son tour dans l'entreprise familiale. Travailleur, il n'a pas le charisme de son grand frère. Pour se faire une place, il part donc à Londres dès 1902 afin d'y ouvrir une succursale. En Angleterre, il peut compter sur le soutien du roi, Édouard VII, passionné par le style et dont l'influence dépasse les frontières de son pays. Le monarque a déclaré Cartier, roi des joailliers et joaillier des rois, et conseiller à la famille d'ouvrir une boutique à temps pour son couronnement. Sur place, Pierre reçoit même l'aide de la royale maîtresse Alice Keppel. L'installation dans la capitale britannique est un vrai succès. Nelly Melba, la chanteuse d'opéra qui a toujours la pêche,
fallait oser,
choisit un bijou Cartier pour orner son corsage alors qu'elle se produit pour un grand concert au Royal Albert Hall. Au mois d'août, plusieurs diadèmes de la maison ceignent les têtes d'invités à la cérémonie de couronnement du roi à Westminster. Pierre est un vendeur exceptionnel. Il a l'art de raconter des histoires, de citer les plus grands tableaux de maîtres du XVIIe siècle pour évoquer ses colliers de perles. Quatre ans après ses succès londoniens, Pierre Cartier embarque pour New York avec la mission d'étudier le potentiel du marché américain. De retour à Paris, alors qu'il hésite, la Providence semble lui faire un signe en la personne d'Elma, une belle et riche américaine qui, trempée, se réfugie au hasard d'une averse dans la boutique de la rue de la Paix. Après la pluie vient le coup de foudre et surtout une aide considérable pour l'installation, trois ans plus tard, sur la 5e avenue de la Grosse Pomme. Pendant ce temps, à Paris, Louis a pris la direction artistique de la maison. Il a du goût et une idée bien précise en tête. Développer un véritable style quartier et vendre dans ses boutiques des créations uniques. Pour stimuler la créativité, il engage des dessinateurs venus d'horizons très divers, et pas seulement des joailliers. Des ferronniers, des décorateurs d'intérieur et même des dentelières le suivent dans les rues de Paris pour des séances d'inspiration où Louis leur montre l'architecture du XVIIIe siècle qu'il admire et qui incarne, selon lui, le summum du bon goût français. La véritable révolution qu'apporte le créateur se fait dans les matériaux. L'or et l'argent sont trop lourds pour les motifs délicats qu'il veut reproduire. En étudiant l'armature des wagons-lits, un jour de voyage en chemin de fer, l'aîné des frères Cartier a l'idée d'adapter le platine, un métal souple et résistant, à la bijouterie. Une innovation majeure qui lui permet les plus grandes audaces créatives. Avec tous ses succès, Pierre et Louis font de l'ombre à leur petit frère. Plus jeune, Jacques Cartier n'intègre l'entreprise qu'en février 1906. À 22 ans, débarquant à Londres, lui aussi va pourtant marquer l'histoire de la maison à tout jamais. Curieux de tout et toujours élégant, avec ses cheveux noirs soigneusement plaqués sur le côté et sa fine moustache, Jacques Cartier se promène dans les rues de Londres en levant les yeux et s'arrête de temps en temps pour retranscrire ce qu'il voit dans le petit carnet à dessin qu'il glisse toujours dans ses poches. Mais Jacques n'est pas qu'un rêveur. Lui aussi a du talent et des idées. Succédant outre-Manche à son frère parti conquérir l'Amérique, le Benjamin fait rapidement la une des journaux grâce à une exposition exceptionnelle de tiare royale dans la nouvelle boutique qu'il a installée sur la passante New Bond Street. Mais très vite, Jacques est investi d'une mission autrement plus délicate, représenter la famille Cartier en Inde pour vendre au Maharaja et associer le plus possible la marque Cartier à cet Orient tellement à la mode dont les fastes font rêver l'Europe entière. De son voyage, il rapporte une caisse pleine d'objets divers destinés à nourrir l'inspiration de son frère Louis et à décorer la boutique parisienne. Au retour, Jacques s'arrête dans le golfe Persique pour dénicher les perles rondes et parfaites qui coûtent alors plus cher que les diamants. En 1919, après avoir combattu dans les tranchées de Verdun et subi une attaque au gaz moutarde, Jacques donne naissance au premier héritier mâle de la jeune génération Cartier. Un soulagement pour Alfred le patriarche qui, à la naissance du précédent bébé, encore une fille, avait envoyé ce télégramme « Toujours en attente d'un petit-fils depuis 15 ans ». Après la guerre, les frères se partagent l'affaire en trois sociétés distinctes dans lesquelles chacun conserve une participation dans celle des autres. Souvent séparés, ils sont toujours en contact par lettre ou par télégramme jusqu'aux années 40 qui marquent le décès de Jacques et de Louis et la retraite de Pierre. Avec leurs filiales à Paris, à Londres et à New York, les frères Cartier s'étaient effectivement divisé le monde, exactement comme ils avaient prévu de le faire dans l'appartement de leur enfance 50 ans auparavant.
Europe 1, historiquement vôtre.